Alors ça va, c'est fort. J'allais dire ça va. Ouais, vous allez bien. Alors vous voyez aujourd'hui, j'ai mis ma chemise de prédicatrice. Parce que j'ai remarqué qu'il y a quelques semaines, il y avait Fred qui prêchait dans voilà, sa jolie chemise à carreaux comme ça. Et puis la semaine dernière, il y avait Roger qui prêchait avec sa jolie chemise voilà, en carreaux. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, pour l'onction, voilà, on va mettre la chemise à carreaux. Donc voilà, ça promet bien. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'ai partagé la dernière fois que j'ai prêché? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, un peu plus fort. Voilà. Donc, on parlait de l'homme ou la femme qu'on était, autrefois, et le fait qu'on n'est plus cette personne-là, que le vieil homme, la vieille femme est mort, et que voilà, on est des nouvelles créatures. Et donc, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est un peu la suite. Parce que là, on parlait là du moment de salut. Ce qui se passe, voilà. On rencontre Dieu, on passe du royaume des ténèbres à au royaume de la lumière. Et ça, c'est un changement, voilà, ça se fait comme ça. Une fois, voilà, passage fait, passage accompli. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que ça ne s'arrête pas avec le salut. J'espère que vous êtes d'accord là. Au moment du salut, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, au moment du salut, il n'y avait pas tout qui était réglé dans ma vie. Il y avait quand même un petit chemin à faire. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Donc voilà, vous voyez le titre que j'ai mis pour ce que je vais partager aujourd'hui. Pourquoi nous avons tous besoin d'un détecteur de mensonges? Okay. Alors, ce n'est pas pour nous de passer le détecteur de mensonges, mais nous avons besoin de savoir comment ça marche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et on va commencer avec un verset très, très connu. J'imagine que presque tout le monde, même si ce n'était pas affiché, pouvait compléter ce verset-là. Donc, Romains 12, verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Alors, ce verset se divise en trois parties qui nous présentent trois questions clés. Il faut connaître les réponses à ces questions clés. Et aujourd'hui, en fait, on va traiter que les deux premiers, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, sinon on va être là encore à 15 heures. J'imagine que vous aurez un peu faim à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va juste simplement regarder les deux premières parties de ce verset, et on va garder le troisième pour la prochaine fois. Donc, les trois questions qu'il faut qu'on se pose. Première question, quel est le modèle du monde que nous sommes appelés à rejeter? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment renouveler la pensée? Et troisième question, ce renouvellement nous aide à découvrir la volonté de Dieu, mais comment? Parce que ce sont des belles paroles, mais si on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, ça ne va pas nous aider beaucoup. Alors, le modèle du monde, Paul nous dit de ne pas se laisser modeler par le monde actuel, mais de se laisser transformer par le renouvellement de notre pensée. Et on le répète très souvent, comme je disais, c'est un verset très très connu, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Quelqu'un peut me dire, Sandy, il faut que tu changes des pièces dans ton ordinateur, parce que ça tourne au ralenti, ça ne marche pas bien, donc voilà. C'est le travail à faire. Et moi, je peux très bien dire oui, ouais, il faut que je change quelque chose dans mon ordinateur. Mais pour tous ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi, je n'aurais aucune idée de quoi faire. On peut me dire de le faire, je sais qu'il faut le faire, mais je ne sais pas comment, je sais même pas comment ouvrir l'ordinateur pour faire ce qu'il faut faire. Et donc, si on veut être obéissant à ce que Dieu nous demande de faire, il faut qu'on comprenne comment le faire. Et nous ne pouvons pas être espérer être obéissant à cette parole de se laisser renouveler, se laisser transformer. Si nous ne savons pas comment reconnaître la pensée du monde qu'on est censé rejeter, ça c'est la première chose. Et donc, je vous donne trois éléments assez courants aujourd'hui qui caractérisent un peu la pensée du monde. Alors, première pensée, ou première façon de penser, c'est que l'homme est le centre de tout. Et Dieu, bah, c'est un truc personnel que, voilà, si on peut le caser dans sa vie, bah, c'est très bien. Mais l'homme, c'est au centre. Dieu, c'est presque un loisir, un intérêt. Comme on met sur son CV, voilà, je fais du sport et j'aime Dieu. C'est comme ça que le monde aimerait bien que nous, on croit en Dieu et qu'on pense à Dieu. Donc, le monde dit, tu as le droit de croire, mais il ne faut pas que ça ait une influence trop importante sur ta façon de vivre. Okay? Tu peux croire, tu as la liberté de croire, mais attention, il ne faut pas que ça touche trop la société dans laquelle nous vivons. Donc, pour le monde, le Dieu qui est souverain n'existe pas. Le Dieu qui règne sur l'univers n'existe pas. Deuxième façon de penser, c'est que le ressenti a plus de valeur que la vérité. On mesure l'importance de quelque chose et la justice de quelque chose dans la mesure où l'on se sent bien, où on se sent épanoui, où on se sent à l'aise, et ça, cela rapidement. Donc c'est sur le coup. Ça me fait ressentir comme cela, donc forcément c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que la vérité est relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité change en fonction des circonstances et ça change en fonction des individus et que voilà, c'est la vérité, une vérité là-bas pour cette personne-là et une autre vérité là-bas pour cette personne-là. Le monde est peu tolérant des vérités absolues. Le monde aime les gens sincères. Le monde aime qu'on soit vraiment sincère dans ce qu'on croit. Mais la sincérité, on peut croire sincèrement à quelque chose qui n'est pas bien. Donc le monde est peu tolérant de cette idée de vérité absolue. Surtout si, en revenant au premier point-là, cette vérité ne convient pas trop à la société autour de nous. Et en revenant au deuxième point, si cette vérité n'est pas très confortable à vivre dans le présent. Donc, on voit qu'il y a sûrement d'autres choses qu'on pourrait dire par rapport à la pensée du monde, mais on va rester avec ces trois points-là pour aujourd'hui. Donc, que signifie le renouvellement de sa pensée? Le renouvellement de notre pensée, c'est un peu l'antidote à la toxicité de la pensée du monde. Parce que la pensée du monde, en fait, c'est le signe du règne du prince de ce monde, qui est le diable. Bill Johnson, je ne sais pas si vous connaissez Bill Johnson, c'est un pasteur dans une église en Californie qui a écrit beaucoup de livres. Mais il a une expression que j'aime bien. Il dit que le renouvellement de la pensée, c'est le signe flagrant que le règne de Dieu est venu en nous. Si on a la pensée renouvelée, ça veut dire que le règne de Dieu commence à s'installer chez nous parce qu'on ne pense plus comme le monde et on commence à penser comme Dieu. Et ça, c'est le règne. Quand on commence à avoir la pensée de Dieu, ça veut dire que le règne de Dieu est en train de venir en nous. Donc, c'est la mise en place d'une autre fondation qui nous aide à briller. Avec la lumière, on a chanté de la lumière, du fait qu'on doit, on va rayonner. Et ce rayonnement, ça vient avec la lumière qui vient de Dieu et de la pensée de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Il y a un verset qu'on va voir un peu plus tard en 2 Corinthiens qui dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Que plus on est, plus Dieu nous travaille, plus on est transformé, plus on brille autour de nous. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas qu'on reste au moment de notre salut, où c'est vrai, c'est glorieux ce qui se passe à ce moment-là. parce que l'ancien homme ou l'ancienne femme est mort et puis voilà, nouvelle créature. Mais c'est comme si on est né une nouvelle créature, mais si on ne grandit pas après, bah, c'est un peu moins glorieux quand même. Donc nous, on veut la gloire en gloire, de gloire en gloire, être transformé. Donc, comment contrer ces trois points-là qu'on a vus tout à l'heure? Comment contrer la pensée du monde? Je vais juste vous donner trois exemples. Donc, le premier renouvellement, si on peut le dire comme ça. Donc, le monde dit que l'homme est au centre. Okay? Et Dieu, c'est un peu voilà, sur le côté, à la périphérie. La Bible dit, en fait, je vous ai lu ce passage-là la semaine dernière dans la louange. Donc, on est en Colossiens 1, verset 15. « Ce Fils, donc on parle de Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même à la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. D'accord? Est-ce que ça vous donne l'impression que Dieu c'est à la périphérie? Voilà, bien au centre là. Si tout subsiste en lui, si tout tourne autour de lui, là c'est quelque chose de très important pour contrer cette première pensée du monde que voilà, moi je suis le centre, l'homme c'est le centre. Non. Plusieurs versets de la Bible nous disent combien on est précieux pour Dieu. Plusieurs versets, mais qu'on ne se trompe pas de notre place. Le fait qu'on est précieux pour Dieu ne veut pas dire que tout tourne autour de nous. Okay? Tout tourne autour de Jésus. Et le fait qu'on est précieux, ça veut dire que par sa grâce, il nous amène avec lui. Mais on n'est pas au centre des choses. Donc ça, parfois le monde aimerait nous faire quoi autrement. Mais ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on tienne à cette vérité-là. Parce que ça, c'est quelque chose qui va informer notre façon de penser. Deuxième renouvellement. Okay? Alors, le deuxième point que je vous ai dit, c'est que le monde dit ce que tu ressens sur le coup a plus de valeur qu'une vérité absolue. Parce que c'est comme ça, vous allez être épanoui, vous allez trouver les choses que vous voulez, ça va se passer bien. Mais là, je vous ai donné deux versets qui disent simplement ce que Jésus avait à dire par rapport à ça. Jean 14, 6, le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Première chose. Deuxième chose, en Jean 8, 31 et 32, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous les hommes libres. Okay? Alors, Jésus, il fait un rapport entre la vérité et deux choses. La vérité et la vie. Et la vérité et la liberté. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai envie d'être une personne libre. Moi, j'ai envie d'être une personne vivante. Ouh là là, vous n'êtes pas très convaincu là. On est plus en phase zombie là, donc ça veut dire que si on veut vivre cette liberté, cette vie que Dieu a préparée pour nous, l'épanouissement, on ne peut pas être plus épanoui que en suivant le chemin de Jésus qui est donné par la vie. On ne peut pas. Et donc, si ça c'est le cas, il faut qu'on accepte qu'il y a les vérités absolues. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Et des choses qui découlent de lui. D'accord? Jésus nous dit que c'est la vérité qui a le pouvoir de nous faire le plus de bien, même si, et ça c'est important, on ne voit pas les bienfaits tout de suite. Et ça c'est difficile pour le monde. On aime bien, maintenant. maintenant, s'il vous plaît. Ou même pas le s'il vous plaît, c'est maintenant. Okay? Mais Jésus dit que voilà, vous tenez bon à la vérité et ce que vous allez vivre ensuite, c'est la liberté et c'est la vie. Aussi, une direction claire, parce que Jésus dit, c'est moi le chemin. Je ne sais pas, si vous êtes comme moi, vous avez parlé à des personnes qui cherchent une direction pour leur vie. Moi, j'ai une très bonne suggestion pour ces personnes-là. C'est « Wouh, Jésus !» Parce que c'est vrai que ça ne donne pas toutes les réponses tout de suite, mais ça donne un très bon point de départ pour trouver les directions pour plus tard. Et donc, vous l'avez entendu maintes fois, je ne m'excuse pas du tout de répéter, il n'y a pas de meilleure façon pour trouver nos repères qu'en lisant la parole. Il n'y a pas de meilleure façon. C'est vrai que Dieu nous parle directement, mais notre façon de juger ce qu'on entend de Dieu, c'est de dire, est-ce que ça correspond avec ce que j'ai lu dans la parole? C'est super important, on le dit, bah, je pense que presque chaque prédicateur parle de ça. Chaque pasteur a envie que les personnes de l'Église connaissent la parole parce que c'est la base, c'est vraiment la base. Alors peut-être, et ça il faut être honnête, peut-être nous ne comprenons pas tout et nous ne sommes pas toujours 100% d'accord entre nous sur les façons d'interpréter certains éléments. Mais ce que nous avons compris, avec un respect profond pour Dieu, là, on obéit. Vous êtes d'accord? D'accord? Il y aura toujours les discussions autour de certains versets, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mais dans ces cas-là, Jésus, c'est Jésus, c'est plutôt Paul, je ne me souviens plus, disait ne passez pas votre temps dans des discussions vaines. D'accord? Si vous tombez sur un truc où vous avez du mal à comprendre ça, avant de tourner en rond avec les débats qui finalement mènent nulle part, parce que personne n'a forcément la bonne réponse, revenez aux choses qui sont claires, où vous savez que c'est bon. Alors Jésus, la croix, c'est bon. D'accord? On peut revenir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de place à débattre, à discuter. C'est important pour notre croissance. Mais il ne faut pas qu'on se laisse traîner, tourner en rond sur les choses que finalement ne sont pas aussi centrales à notre compréhension de Dieu et notre façon de vivre pour lui. Donc ça, c'est juste un petit avertissement. Alors, renouvellement numéro 3. Le monde dit... La vérité est relative et que ça change en fonction de tout ce que vous voulez. Nous avons besoin d'un esprit analytique, un esprit critique pour faire le tri de ce que nous entendons. Tout autour de nous, ça peut être dans les médias, dans les livres, à l'école, au travail, dans l'église. J'espère qu'aujourd'hui que vous m'écoutiez avec un esprit analytique. Parce que c'est vrai que j'ai fait de mon mieux pour préparer quelque chose qui est correct, qui est solide, qui respecte la parole de Dieu. Mais je suis humaine. Donc, parfois, il peut y avoir des réflexions qui sont moins que 100% dans l'axe de Dieu. Donc, écoutez ce qui se passe autour de vous avec un esprit analytique. Est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu? Est-ce que ça correspond avec ce que je sais du caractère de Dieu? C'est hyper important. Donc nous devons écouter attentivement et se poser des questions. Donc quelles sont les présuppositions derrière ce qui vient d'être dit? Les bases sur lesquelles ces arguments ont été fondés. Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, il utilisait assez souvent la formule « il a été dit, mais moi, je vous dis ». Ça veut dire qu'il y avait des choses qui sont entrées dans la tradition, qui, même si au début ça commençait bien, avec une bonne volonté de respecter ceci, cela, en fait qu'avec le temps, ils ont été déformés et que ces choses-là sont devenues une tradition qui finalement n'avait pas l'esprit de vérité qui portait pas à la vie, mais qui portait plus vers la mort. Et Jésus, il ne voulait pas qu'on soit prisonnier des idées reçues. Alors, que ce soit, encore une fois, dans l'Église ou que ce soit dans le monde autour de nous. Il y a quelques exemples des idées reçues où on les répète, mais bêtement, parfois. J'aimerais vous donner un exemple en particulier parce que ça me concerne directement. Il y avait un moment dans ma vie, j'avais 10 ans à peu près, et j'étais dans une église, donc mes parents étaient dans l'église, ma famille était dans l'église. Et tout autour de moi, il y avait une fille un peu plus âgée que moi, elle avait 14 ans dans l'église, qui partait un peu dans le monde. Ça provoquait beaucoup de détresse chez ses parents, bien sûr, ça se comprend. Mais à ce moment-là, en écoutant les discussions entre adultes, on avait l'impression que c'était une fatalité, que la crise d'adolescence, ça veut dire forcément qu'on va arriver à, je ne sais pas, 13 ans, 14 ans, et plus âgé peut-être, et voilà, qu'on va partir dans le monde. Parce que voilà, le monde, c'est plus fort que... Et j'avais 10 ans à l'époque, et je ne pense pas que les adultes étaient conscients. Mais moi, j'encaissais ces choses-là, et ça semait une peur folle dans mon cœur. Parce que moi, à 10 ans, moi, j'aimais Dieu. Mais avec la façon de parler des adultes, j'avais l'impression que c'était une fatalité, que j'arrive à 14 ans et qu'est-ce que je vais faire parce que je vais renier Dieu et je vais partir dans le monde et je ne veux pas. Mais c'est un truc fou, quoi. Je ne voulais pas et j'avais peur. Et les idées reçues de la crise d'adolescence, ça semait une peur en moi. Et je ne pense pas que les adultes de l'Église rendaient compte de ce qu'ils disaient et de ce qu'il semait dans les enfants. Et j'ai passé 6 mois, et j'ai prié tous les soirs, je ne dormais pas la nuit, parce que ça m'angoissait. Et c'est, mais Jésus, ne me lâche pas, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Je ne veux pas me détourner de toi. Et c'était vraiment un moment terrible dans ma vie, je peux vous dire honnêtement. C'était très très difficile à vivre. Et au bout de 6 mois à peu près, j'ai reçu une sorte de paix. Et Dieu m'a dit, t'inquiète pas. Si ça, c'est vraiment ton cœur, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une fatalité. Ce que tu as entendu, c'est un mensonge. OK? C'est un mensonge. Et j'aimerais dire aux adultes, si vous avez des familles, une famille plutôt, ce matin, attention à ce que vous dites devant vos enfants par rapport à vos attentes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des soucis, parce que ça peut arriver, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit est une fatalité ou pas. Parce que la crise d'adolescence où on quitte Dieu et on part dans d'autres choses, c'est faux. C'est faux. Vous êtes convaincus? Ouais. La Bible nous dit que si, quand un enfant est jeune, on l'enseigne, on éduque, que il y a des choses qui restent ancrées dans leur cœur. Donc, en tant que parent, moi, je ne suis pas parent. Donc, vous allez dire, bon, mais avec quel droit elle dit ça? Mais je parle comme un enfant qui a vécu ça. Donc, mes parents, vous avez une responsabilité. Priez pour vos enfants, oui. Mais ne vous inquiétez pas pour vos enfants. N'ayez pas peur pour vos enfants. Priez pour vos enfants et Dieu, il va vous aider dans des situations, que ça soit facile ou moins facile. Et je sais qu'il y a il y a toute la gamme dans ce qui peut se passer. Et je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais il faut qu'on arrête de parler comme si c'était une fatalité, parce que ce n'est pas le cas. D'accord? Dieu, il est fidèle. Ça, c'est une parenthèse que j'aimerais fermer, mais c'est quelque chose que je croyais important à dire pour vous les parents aujourd'hui. La Bible parle des générations qui louent ensemble. Il parle du fait qu'il y a les jeunes, les enfants qui vont sortir les choses, qui vont être la parole de Dieu. Ça devrait être le genre de choses qu'on proclame sur nos enfants. D'accord? C'est, qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? C'est impressionnant. Si vous posez cette question à un enfant de 5 ans, 6 ans, c'est impressionnant le nombre de fois on a une réponse. Ah, Dieu m'a dit, Mais si ça n'entre pas dans nos attentes, voilà, il faut qu'on change nos attentes pour correspondre avec ce que Dieu dit des enfants et de comment ça peut se passer en grandissant. Donc ça, c'est important. Ayons l'esprit analytique. Est-ce que je l'ai entendu quelque part? Est-ce que c'est une idée reçue? Ou est-ce la pensée de Dieu? Nous n'acceptons pas aveuglement ce qui est dit, c'est ça que je veux dire. On peut sortir même les choses de nos propres bouches, mais il faut qu'on évalue les choses qu'on est en train de dire et aussi d'évaluer les choses que nous sommes en train d'écouter. Alors, avec la question « Que pense Dieu de cela ?», c'est vrai que parfois il faut creuser parce qu'on n'a pas une réponse toute faite. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation en Ukraine ? Je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas chercher Dieu et prier pour l'Ukraine, pour qu'il y ait une résolution comme Dieu le veut. D'accord ? Donc, il faut creuser parfois. Mais il faut savoir aussi qu'à travers les histoires de la Bible, on a des exemples des hommes et des femmes qui aimaient Dieu et que Dieu, quelque part, a validé dans leur démarche avec lui. On a la vie de Jésus lui-même. Et donc déjà avec ces exemples-là, on peut prendre comme modèle quelques attitudes à adopter, quelques pensées à retenir, quelques actes qu'il faut faire aussi. Alors donc ça c'est un peu la pensée du monde et comment le refuser. Donc la première partie de notre verset c'était ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ça, c'est notre première pensée. Mais, deuxième partie, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. D'accord ? Alors, la transformation, c'est quelle transformation ? Paul dit que ce renouvellement, ça vient par... Pardon, cette transformation, ça vient par le renouvellement de notre pensée. C'est un réalignement de la pensée de Dieu, de notre pensée avec la pensée de Dieu. Et le mot traduit transformer, c'est un joli mot ça, c'est le mot métamorphoser. Okay? Métamorphoser, c'est un mot grec. C'est le même mot utilisé pour expliquer ce qui se passe quand une chenille devient un papillon. Alors, je sais pas. Pour vous, moi, entre les deux, moi, je suis plutôt pour devenir papillon. Ça, c'est comme parce que moi, je veux voler, d'accord. Mais il y a une transformation qui se fait. C'est aussi, et ça, c'est aussi intéressant, c'est le même mot qui est utilisé de Jésus quand il est transfiguré. C'est le même mot que Jésus quand il était transfiguré. Le mot, c'est il était métamorphosé. En fait, toute sa gloire était révélé. Donc ce mot-là, c'est un mot qui exprime un changement, mais radical. Radical. C'est pas un tout petit, je suis un peu plus beau et un peu plus rayonnant et un peu plus. C'est carrément, si on regarde sur un bout de temps, on regarde pas la même personne. On est métamorphosé. Mais ça se passe comment? Alors, il faut d'abord comprendre un peu de grammaire. Vous êtes venus pour ça ce matin? Un petit cours de grammaire? Ça, c'est le danger d'avoir des profs de langue qui prêchent. Donc, ne vous inquiétez pas. On va juste regarder trois éléments que je trouve assez intéressants dans cette phrase-là. Première chose, c'est que ce verset utilise le temps présent continu. Okay? C'est-à-dire, ce que Paul dit dans cette phrase-là, plus précisément, c'est « continuez à vous laisser transformer à chaque instant ». Ok ? Donc, la transformation dont on parle ici, ce n'est pas un « whoop » comme ça et c'est fait. Ce n'est pas la baguette magique qu'on fait « doum, doum, doum » transformation. Okay? C'est un travail en continu. C'est un style de vie à poursuivre en continu. Car peu importe où nous sommes sur le chemin, nous ne sommes pas encore au bout du chemin. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. C'est une transformation en continu. Deuxième point, ce verset utilise la voix passive. Donc là, c'est vraiment le fléau de tous les étudiants en anglais qui détestent l'enseignement de la voix passive. Mais ça veut dire que ce n'est pas vous qui vous transformez. OK? Vous ne vous transformez pas par la puissance d'une pensée positive. OK? C'est pas ça. On n'est pas dans le self-help. On n'est pas dans le développement personnel. Voilà, je vais penser un truc positif et puis ça va changer. C'est pas ça. C'est Dieu qui transforme. C'est par son esprit qu'on est transformé. Et donc, ça aussi, c'est important. Donc, on a le premier point, que c'est en continu. Deuxième point, c'est Dieu qui fait ce travail en continu. D'accord? Quelque part, notre transformation, c'est la responsabilité de Dieu en nous. Okay? Troisième point, puisque l'impératif est utilisé dans cette phrase, l'impératif, ça veut dire quoi? C'est une ordre. Voilà. C'est fait comme je dis. Nous voyons qu'en fait, nous avons quand même notre part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est Dieu qui transforme, mais c'est avec notre coopération. L'autre, pour nous, c'est de se laisser transformer. Il faut qu'on laisse Dieu faire ce qu'il a à faire en nous. Et ce qui est un avertissement quelque part, c'est que nous avons la possibilité de refuser la transformation que Dieu veut opérer en nous. Donc là, il faut se laisser transformer. Alors, il y a une histoire de l'Ancien Testament qui nous est très familière. Mais on va reprendre quand même cette histoire parce que ça montre l'essentiel de ce que j'ai dit jusqu'à là aujourd'hui. Alors, je vais abréger le passage un peu parce que c'est quand même une histoire assez longue. Mais si vous souhaitez lire l'histoire complète, c'est en 1 Samuel chapitre 17. Des idées? OK. On a cette histoire de David et Goliath. Mais en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le combat, c'est ce qui se passe avant le combat. Donc, on a une rencontre entre deux armées. Il y a finalement un combat entre deux personnes. D'accord? Petit spoiler, bah, c'est David qui gagne. D'accord? Si vous n'étiez pas sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu l'avant-combat. L'avant-combat. Parce que c'est là où on voit la puissance de la pensée dans ce qui se passe. Donc, vous allez voir, de temps en temps, j'ai sauté un assez grand passage et j'ai mis un petit résumé en orange. Donc, là, si c'est en orange, ce n'est pas la Bible, juste pour être sûr. Alors, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Saul, roi d'Israël, de son côté, rassembla les hommes d'Israël. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Et puis, on voit, voilà, c'est le grand méchant, super bien armé, et il lance un défi. « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saul. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. » S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Chaque matin, et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Et puis David arrive au camp. Donc David, il n'est même pas dans l'armée. Il n'est même pas dans l'armée, il arrive voilà, pour faire des sandwichs pour ses frères qui sont dans l'armée. Goliath sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. L'avez-vous vu s'avancer contre nous ? Dit l'un d'eux. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. Voilà une motivation contemporaine. Okay. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce qu'on leur donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ?» Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ? Puis on saute un peu, David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. « Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Alors bref, ensuite, Saul lui dit, tu ne peux pas, tu n'as pas d'expérience, tu es trop jeune, etc., etc. David dit, bah, je peux. Okay? Ça, c'est en bref ce qui se passe. Et David dit, je peux, puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours. Il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, quand il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Et puis, il y a David avec bâton et fronde. Il s'avance vers Goliath. Celui-ci le regarda avec mépris. David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai. » Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Okay? Donc ça, c'est la version un peu abrégée de l'histoire. Vraiment, je vous encourage d'aller lire l'histoire en entière. Pourquoi utiliser cette histoire comme illustration du renouvellement de la pensée? C'est parce que David avait une pensée renouvelée par le temps passé dans la présence de Dieu et dans sa parole. Alors, je dis ça comme ça, est-ce que je peux le prouver? Oui, je peux le prouver. Dans les psaumes qui sont des psaumes de David, et que pas tous les psaumes sont les psaumes de David, mais dans les psaumes qui sont écrits par David, plusieurs fois on a des références qui disent, par exemple, je vous donne un exemple, psaume 18, « J'ai toujours ces lois sous les yeux. » Okay, encore un exemple. « Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel et sa parole est éprouvée. Okay? » Donc ça, c'est l'attitude de David envers la parole de Dieu, envers ce que Dieu a dit, ses lois, c'est ce que Dieu a mis en place. Et c'est ça que David a un peu inspiré pendant ses temps avec Dieu. Et c'est ça qui fait la différence dans cette histoire. Je vais vous montrer les points de vue parallèles, d'accord? Je vais vous montrer le point de vue des autres, des membres de l'armée, les soldats, donc la majorité de l'armée d'Israël. Et puis on va comparer ça avec David et on verra comment la pensée renouvelée par la parole et l'Esprit de Dieu mène à une manière de vivre où le règne de Dieu vient. D'accord? Donc, premier exemple, c'est la pensée. Alors, on commence avec les gens d'Israël, les autres. J'ai mis là. Okay. Les gens d'Israël, ils manquaient d'esprit analytique. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est en ce qui concerne le défi lancé par Saül. Déjà, et ça c'est le premier grand problème dans ce qu'ils ont fait, ils ont permis à Goliath de dicter les termes du combat. Parce que je vous rappelle qu'il y avait une armée. Et puis il y a Goliath qui arrive et dit non. Là, vous n'avez pas de choix, c'est un de vos gars contre moi. Et j'ai jamais compris pourquoi l'armée n'a pas dit mais non, allez, on y va. Mais première chose, c'est que, ah oui, les termes qui sont dictés par l'ennemi sont les seuls termes qui comptent, qui sont valables. Deuxième chose, et ça c'est grave, ils laissent passer un mensonge à propos de leur identité. Car dans le défi que Goliath lance, il leur propose un choix entre deux types d'esclavage. Soit vous restez les esclaves de Saül, soit vous devenez les esclaves des Philistins. D'accord ? Comme s'il n'y avait que ces deux possibilités. Bon, esclavage sous Saül ou esclavage philistin. Ben, c'est chouette quand même qu'on choisit. C'est ouh, ouais, qu'est-ce que je vais choisir ? Bien. Mais personne n'a dit, dès le premier jour, bon, en fait, lui, il n'a pas compris qui nous sommes. Il n'y avait personne qui avait dit, mais attends, on n'est pas les esclaves de Saül. Nous, on est les bataillons du Dieu vivant. Oui, c'est vrai, Saül, il est notre roi. Mais on n'est pas ses esclaves. On est le peuple de Dieu. D'accord ? Donc, au lieu d'arrêter le mensonge au début, il avale complètement. C'est, ouais, je vais prendre ça. Ils ont écouté combien de fois ce mensonge ? C'était tous les jours, c'était combien de jours ? 40 jours et combien de fois par jour ? 2 fois par jour. Donc, matin après et soir, vous êtes des nuls, vous êtes des esclaves. Après 80 fois, ça risque d'avoir un impact quand même. Donc, c'est vraiment important de voir qu'ici, les Israélites, ils se sont laissés modeler par la pensée philistine. Parce qu'ils n'ont pas, entendu le mensonge, ils n'ont pas dit non, et on arrête ça tout de suite, parce que c'est pas vrai. D'accord ? Et donc, on voit un peu la suite de ce qui se passe. Il faut savoir qui nous sommes devant Dieu, pour ne pas être dupe quand l'ennemi lance ses faux défis. Et ce sont les faux défis. Parce que vous allez voir, avec l'ennemi, il va dire, ouais, bah, c'est soit ça, soit ça. Et il essaie de nous faire penser qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Mais avec Dieu, Dieu dit que ma grâce te suffit. Ça veut dire que vous ne serez jamais dans une situation où la grâce de Dieu ne va pas suffire. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir qui nous sommes en Dieu. Il faut connaître les promesses de Dieu pour nous. Il faut savoir ce que la Bible dit à propos de toi. Que tu es une créature merveilleuse, comme on a entendu ce matin. Que tu es enfant de Dieu. Que tu as été sauvé. Le nombre de personnes avec qui j'ai parlé encore, qui ne sont pas sûres qu'ils sont sauvés. Et je dis, est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi ? Ouais. Est-ce que tu as demandé à Jésus d'être Seigneur de ta vie ? Est-ce que ta vie, maintenant, tu dis, non, Jésus, je vis pour toi. Donc, Jésus, c'est ton Seigneur ? Oui. Je dis, voilà, il n'y a plus de doute. La Bible dit que si tu confesses que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. D'accord ? Mais l'ennemi, il aime bien semer des choses qui vont nous faire douter. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le cas à cause de cela? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qu'il faut régler dans ta vie. Mais tu es sauvé. Donc si ça c'est une question pour quelqu'un ici ce matin, il faut savoir, si ça c'est le cas pour toi, tu as cru et tu as accepté Jésus comme Seigneur, ça veut dire qu'il règne, c'est lui qui est au centre de ta vie, ça veut dire que tu es sauvé. D'accord ? Donc ça, c'est un mensonge que l'ennemi il aime et il y en a plein d'autres. D'accord ? Donc ça, c'est le faux défi de l'ennemi. Et puis, il y a David qui arrive. Okay ? Il arrive. Qu'est-ce qu'il dit, David ? Il entend le même défi. Mais avec les oreilles de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la parole de Dieu quand même. Il a beaucoup loué Dieu, il a beaucoup baigné dans la présence de Dieu. Et lui, il reconnaît le mensonge tout de suite. Et il le contre aussitôt avec la vérité. C'est, non, c'est Dieu le chef ici. Et nous sommes son peuple. Nous ne sommes pas les esclaves de Saül. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes les il parle du fait qu'on est des bataillons du Dieu vivant. D'accord ? Donc là, c'était première chose. Alerte mensonge, bip, bip, bip. faut pas que j'accepte ça. Et nous avons besoin de prendre la même attitude. Quand il y a quelque chose qui est contre ce que Dieu a dit, il faut tout de suite que c'est, hop, d'accord, ça c'est maintenant, c'est balisé mensonge, et voilà, on met sur le côté. Deuxième chose, parce que on parle d'une transformation là, donc il faut savoir que la pensée, ça mène à un ressenti. Okay? Avec le ressenti, on a les autres. Ils ressentent la terreur, la peur, ils sont démoralisés. Qui déjà a eu peur? Qui a de temps en temps ressenti un peu la démoralisation? Ça arrive, d'accord? Il faut chercher les racines de ces choses-là. Parce que souvent, c'est quelque chose qui commence avec un mensonge. Que Dieu n'a pas vu ça. Dieu n'est pas aussi fidèle que je pensais. Dieu n'a pas vu le travail que j'ai fait et donc voilà, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de... Souvent, si on a peur ou si on est démoralisé, ça a commencé quelque part avec un mensonge. Et si on donne place au mensonge dans notre pensée, on se laisse modeler, encore une fois, par l'ennemi, et on se trouve avec un ressenti qui est loin de l'épanouissement qu'on cherchait. Alors, dans ce cas-là, on a des soldats qui sont démoralisés. Quand on pense que c'est une armée, avoir une armée qui est démoralisée et remplie de peur, ce n'est pas génial, franchement. Si on a une armée, il faut quand même qu'on ait une armée pleine de force et conviction, qu'on combatte pour les bonnes raisons. Et puis, on a David qui arrive. Et David dans tout ça, est-ce qu'il est terrifié? Non. Mais il est indigné. Il dit, attends, on ne parle pas de Dieu comme ça. Mais il a insulté le peuple de Dieu, il a insulté le Dieu vivant, ça ne va pas. Donc il est indigné, mais il n'a pas peur. Ça, c'est important. Il sait que l'issue du combat dépend de Dieu, il a confiance en Dieu, parce que seulement Dieu gère l'issue des combats. Ça, c'est sa proclamation qu'on entend un peu plus tard. Mais s'il ressent de la confiance, c'est parce qu'il le sait. Déjà. Et donc, on a, après le ressenti, qu'est-ce qui se passe? On commence à parler. Puis, on a la parole. Et les autres. Ah, pour l'argent, pour se marier avec une princesse, pour ne plus jamais payer d'impôts. Mais je ne peux pas. OK? Je ne peux pas. C'est vraiment super. La motivation de ces soldats-là, c'est ouais, une chouette statue dans la société. Voilà. Je vais me marier avec une princesse, je vais être connue. Et le plus important, bien sûr, je ne vais plus payer d'impôts. Mais il faut savoir qu'à long terme, ça c'est une motivation narcissiste et matérielle. Et il faut savoir qu'à long terme, ça ne va jamais aboutir dans une victoire. Okay? Parce que finalement, ce n'est pas suffisamment fort pour pouvoir surmonter les choses hyper difficiles. Ça peut aller jusqu'à un certain point, mais en fin de compte, ce n'est pas suffisant pour voilà, tout faire, pour tout dépasser. Et donc, malgré les promesses du roi, il n'y a personne qui se propose, malgré toute cette idée géniale de voilà, être une célébrité, un people. Ça ne se passe pas. Si on se laisse modeler par le monde, on a la pensée, puis on a très vite la parole focalisée sur les choses qui sont du moindre importance. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans cette histoire-là. Alors, et puis David. Là, il faut dire que David s'intéresse à ce qui est dit. En fait, il est tellement intéressé que dans l'histoire, il demande deux fois, mais qu'est-ce qu'on aura? La princesse? On ne va plus payer d'impôts. Donc, ce n'est pas qu'il n'avait pas d'intérêt pour ce genre de choses-là, mais son discours ne tourne pas autour de ça. Son discours, c'est le nom de Dieu a été insulté, le peuple de Dieu a été insulté. Et c'est ça c'est ma motivation. Moi, j'y vais parce que ça ne va pas. Et si, quelque part à côté, il y a une princesse et ne plus payer d'impôts, c'est très bien. Mais ce n'est pas un allègement fiscal qui fait que David sort contre Goliath ce jour-là. Il dit, c'est une honte pour nous d'accepter ce genre de discours de Goliath. Notre Dieu est vivant. Il parle du Dieu vivant. Et puis, après la parole, qu'est-ce qui vient ensuite? L'action. Oui, l'action. Alors, les autres, qu'est-ce qui se passe? Ils s'enfuient, ils se barrent rapidement. Alors, lorsqu'on est modelé par quelque chose, ça se voit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a une chose qui prend forme, qui est visible. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à une transformation. C'est forme. Voilà, il y a le mot dedans. Il y a une forme visible. Quelque chose qui se voit en nous qui est différent. Alors, l'invisible de notre pensée, ça mène à notre ressenti, qui est aussi plus ou moins invisible, sauf que parfois ça se voit sur le visage. Mais cela mène à notre parole, qui est audible, et puis à nos actions, notre façon d'être, qui est visible. Alors, une transformation se ressent, s'entend et se voit. Mais elle commence dans l'invisible de notre pensée. Et ça, c'est important, il faut connaître les racines. Alors, dans ce cas-là, avec une pensée modelée par l'ennemi, les soldats, ils n'avaient pas d'autre choix. La fuite, c'était le seul choix valable. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'ils ne se voyaient pas comme un peuple de valeur, déjà. Choisis, précieux aux yeux de Dieu, non? Ils avaient oublié leur identité comme les bataillons du Dieu vivant. Et donc, ils n'avaient pas la foi pour combattre, parce qu'ils avaient un peu un manque d'assurance dans le fait que Dieu allait les secourir. Donc, ils étaient faibles, ils étaient sans espoir, ils étaient peureux parce qu'ils étaient bourrés de mensonges. Okay? À leur place, il faut dire, moi aussi, je me serais enfui. Parce que si tu n'as pas de foi, vaut mieux parfois t'enfuir. Parce que aller dans le combat sans la confiance en Dieu, ça peut être difficile à vivre. Mais David, on lit qu'il s'approche de Goliath sans arme de guerre, avec ce qu'il a et au nom de l'Éternel. David n'avait pas gagné ce jour-là parce qu'il avait déjà tué des lions. Okay. Comme entraînement. Il a utilisé cet argument-là pour justifier la possibilité d'aller devant Saül. Mais moi, je ne pense pas qu'il pensait, ouais, bon, j'ai déjà tué des lions, donc ça va, je peux aller tuer Goliath. Saül avait besoin d'être rassuré que j'envoie quelqu'un qui a quand même un minimum de compétences pour le faire. Mais dans sa tête, David, il avait déjà gagné parce qu'il croyait que Dieu allait le faire. Il a gagné parce qu'il savait reconnaître le mensonge en tant que tel. Et son arme principale ce jour-là, ce n'était pas sa fronde, mais c'était la vérité. Et ça, c'est important pour nous. Notre arme principale, ça va toujours être la vérité dans n'importe quelle situation. Quand on a une pensée baignée dans la parole et baignée dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'on est équipé. Et David, il était équipé, non pas pour une confrontation avec Goliath, mais une confrontation avec le mensonge que Goliath avait essayé de semer. Et c'est seulement parce qu'il a pu faire cela que finalement la volonté de Dieu a été accomplie dans cette situation-là. Donc, Jean 15 et 16 parle du Saint-Esprit comme notre défenseur. Mais aussi, il parle du Saint-Esprit comme l'esprit de vérité. Et Dieu nous équipe de son esprit pour que notre pensée soit renouvelée, pour qu'on puisse contrer les mensonges qui nous affaiblissent, qui nous rendent captifs au modèle du monde. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Jean 16, c'est Jésus qui parle. Jésus, il dit, moi, je vais vous quitter maintenant, mais ne vous inquiétez pas parce que voilà, l'Esprit viendra. Il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Okay? Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous avons besoin de laisser de la place dans nos vies, de la place pour le Saint-Esprit, pour lui laisser faire son travail de transformation en nous, pour nous révéler les mensonges que peut-être on a cru, afin qu'on puisse entrer dans la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va faire de nous des hommes et des femmes libres. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu dans les situations diverses. Et plus on passe de temps dans la parole, plus on a la pensée renouvelée, plus on donne au Saint-Esprit les moyens pour cibler les choses, pour dire « Ouh, attention, parce que tu as lu ça, et donc par rapport à ce que tu as entendu dire cette personne-là, ça ne correspond pas. Okay? » Et donc c'est le Saint-Esprit qui fait son travail en nous. Il y a un dernier verset, Pierre, si tu peux le projeter. Oh, c'est déjà fait, excuse-moi. En 2 Corinthiens 3, verset 18, je l'ai déjà mentionné. C'est que nous sommes transformés en son image, donc on parle de l'image de Jésus, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Ça, c'est notre transformation. Ça, c'est notre devenir papillon, si vous voulez. C'est notre métamorphose. En son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. C'est une des premières fonctions du Saint-Esprit en nous. C'est le renouvellement de notre pensée afin qu'on puisse entrer dans la vérité de ce que Dieu a dit par rapport à nous, par rapport à notre monde. Et c'est là où on va devenir des papillons. Okay? Et c'est pour ça qu'il faut savoir détecter les mensonges. Donc j'aimerais vous inviter à vous lever un instant. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose vraiment de très simple. Et c'est quand chacun s'invite le Saint-Esprit, donc l'Esprit de vérité, de venir, de faire son travail en nous, de nous révéler les choses que nous avons crues, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas la pensée de Dieu. Parce que Dieu a tellement envie de voir cette transformation en nous. Tellement envie. Il sait qu'il y a une gloire qui va être magnifique, magnifique, au bout du chemin. On a du chemin à faire, mais c'est un travail qui est en cours. D'accord? Donc, invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit de venir de travailler nos cœurs afin qu'on puisse rejeter des mensonges avec confiance. Parce que nous avons un bon Dieu, un grand Dieu. Un Dieu qui veut faire son œuvre en nous. Oh Jésus.